à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Trio Singulier Pluriel avec Poussadivani. Voilà. Et puis Arlette Farah. Et là, on reçoit une artiste, auteur, artiste de la parole, Lem. Bonjour Lem.
Allô, comment allez-vous les filles ?
On va très très bien.
Très bien.
Alors avant qu'on commence à parler avec toi de ta vie et de ton œuvre, oh j'aime bien dire ça, je trouve ça joli. Enfin pour l'instant. Alors on part en musique ?
Toi qui refoules le présent dans les abîmes de la pensée, la tête coincée dans l'élan de sentiments préfabriqués. On a déposé la tourmente sur tes épaules déjà brisées. Ressens-tu la peur évidente au cœur de l'animal trapé? Une fois la nuit venue, mais comment s'est forgé l'engrenage qui t'inflige les malaises d'un parterre? Visite les dieux pour conquérir l'équilibre, qui pense puiser des aveux dans la violence de l'indicible. Toi qui vois la vérité pure dans les ports de la résistance, pourras-tu donner au futur la présomption d'innocence? Une fois la honte déchue,
Lem, on va commencer, on te connaît, oui, comme artiste, mais il y a une partie de toi qu'on connaît peut-être moins, que l'on sait moins, c'est que tu es née dans un ghetto, que tu as été une petite fille abusée et violée par ton beau-père pendant toute ton enfance, et que tu as vécu avec une mère alcoolique et beaucoup de problèmes dans ta vie. Et puis, à ce propos, j'ai lu quelque chose de toi à un moment donné qui disait que le viol ne t'a pas détruite. Mais alors, qu'est-ce qui t'a détruit ?
C'est toute une question que tu me poses là, Arlette. En fait, quand je dis que le viol ne m'a pas détruite, il faut bien comprendre une chose, c'est que j'étais petite, hein, j'avais entre 6 et 12 ans. Donc, le fait est que quand ça se passait, pour moi, ce n'était pas du viol. Donc, non, ça ne m'a pas détruite. Oui, je voyais bien que quelque chose n'allait pas, mais je ne mettais pas d'explication là-dessus. Quand je l'ai appris, le passé étant le passé, j'ai eu besoin de recoller certains morceaux avec les années, évidemment, mais ce n'est pas ça, effectivement, qui m'a détruite. Ce qui m'a fait mal, c'est la trahison derrière, c'est le fait de ne pas avoir porté plainte pour les bonnes choses, c'est le fait de finalement pas être accompagnée par la mère que je pensais avoir comme alliée derrière. Et puis après, par la réapparition du beau-père plus tard, ça en sera toute une aussi, mais...
Oui.
Exact, mais c'est ça. Moi, ce qui m'a détruite finalement, c'est le manque de soutien qu'il y a eu au suivi. C'est pas nécessairement l'acte en lui-même.
Parce que ouais. ton histoire a été loin quand même, parce qu'à un moment donné, tu te voyais même plus continuer à vivre.
Ben, tu sais, quand je repars à zéro, là, moi, je me souviens, j'avais 4 ans. Là, mon premier souvenir remonte à mes 4 ans. Mes parents sont en train de se taper dessus, je vois ma mère qui a du sang sur les bras. À l'âge de 6 ans, les viols commencent. La tromperie, la manipulation, beaucoup psychologique, le fait que parce que j'aime mon père, il faut le satisfaire. Le fait de voir mon frère battu à sang, ma mère se fait battre. Je veux dire, on a une vie qui est complètement, complètement abasourdissante. Moi, j'ai 12 ans, là, 13 ans, la première fois que mon père me court derrière avec un fusil. Je veux dire, il a essayé de me tuer plusieurs fois, de plusieurs manières. Quand j'arrive à l'âge de 21 ans, 22 ans, j'ai un passé d'itinérance, de victime fois mille, de jeune fille qui a dealé, qui s'est vendue pour de la drogue, des clubs, de la bouffe, un toit. J'avais rien de concrètement positif à quoi me rattacher vraiment. Je savais pas exactement ce que je faisais là. Puis je me disais, bon, ben, si la vie a rien à m'offrir, peut-être que son contraire a tout à offrir. On verra.
Wow.
Yeah. Alors quand on a peur d'un endroit, quand on vit dans un quartier déjà difficile, dans un ghetto, tu le disais toi-même, et puis que tu as encore plus peur quand tu es chez toi qu'à l'extérieur avec tout ce qui se passait, comment on arrive à se sortir de quelque chose comme ça ? C'est ton histoire de vie là-dessus qu'on aimerait entendre.
Bah écoute, au début, je n'avais pas vraiment de contrôle là-dessus, mais à un moment donné, d'un homme à l'autre, hein, parce que c'est comme ça moi, que j'ai bivouaqué à l'extérieur de chez nous. J'ai mimétisé beaucoup les bonnes habitudes parentales. Puis, ce qui s'est passé, c'est que... À un moment donné, j'ai entendu dire que le gars avec qui je sortais devait rencontrer une sœur dont il venait d'apprendre l'existence. Elle habitait dans le sud de la France. Et là, j'étais comme, c'est à 900 km de chez moi. Il me semble que ce serait convenable comme distance pour recommencer ma vie, tu sais.
Oui.
Donc, c'est ça que j'ai décidé. J'ai décidé de l'aimer à la folie l'espace de quelques semaines pour pouvoir le suivre, en tout cas me faire inviter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, une fois arrivé dans le sud de la France, je l'ai quitté. J'ai commencé à faire ma vie. J'ai cru au renouveau. Mais, tu sais, comme je le dis dans Des limbes à la surface, qui est mon seul en scène qui parle de ma résilience, un déménagement d'aussi longue distance soit-il ne règle pas une vie de mauvaises habitudes. Il ouvre des perspectives aux personnes prêtes à les accueillir, ce qui n'était pas mon cas. Alors... Je me suis retrouvée avec mes mauvaises habitudes à devoir recommencer quelque chose, mais tout en étant dans sa propre maison et dans sa tête. J'avais pas d'amis, j'avais pas de connaissances. Tu sais, je me rendais pas compte à quel point je me compliquais la vie en fait en partant, alors que je pensais que j'étais déjà dans la complexité ultime. J'ai rajouté un niveau à ça, c'est celui de pas avoir le support d'une amitié pas loin. Ce que j'avais à l'époque à l'extérieur de chez moi. Alors, à ce moment-là, bah, c'est là que je me suis dit, bon, bah, si la vie n'a rien à m'offrir, je vais commencer à programmer mon départ. Et puis bah, les choses, écoute, ce sont... Tu sais, moi, je suis les signes de la vie, ça a
Oui.
toujours été comme ça, hein. Quand quelque
Oui.
chose se présente, là, je me dis, OK, bah, ça, c'est pour moi, sinon, je ne m'en serais pas aperçue, je l'aurais laissé filer, c'est fait que ça, c'est pour
Oui.
moi, je vais y aller. Puis, à ce moment-là, celui qui allait devenir mon futur mari est arrivé dans ma vie, puis je tombais enceinte, je pense, 2 mois après, genre 2 semaines après la date que moi j'avais décidé de partir, tu sais.
Oui.
Et là, je me suis dit, mais ça n'a même pas d'allure, tu sais, je veux dire, je suis qui, moi, pour ôter la vie d'un innocent? Est-ce que je veux ressembler à la personne qui a essayé de m'ôter la vie à moi 10 ans plus tôt?
Et non,
Tu sais, c'était
pas
moyen
du
comme image, là.
tout.
Ouais. Fait que j'ai
Alors,
laissé une chance à tout ça.
on entend des petits bruits puis des ça c'est Poussadi qui nous il a peut-être envie de parler, mais elle fait des
Non, 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 je suis. Non, non, mais j'admire son récit. Alem, mon Dieu, j'ai des images toujours qui passent en tête quand j'entends
Oui.
ça, mais avec la voix toute
Oui.
sereine
Parce qu'on entend frotter
aujourd'hui.
en même temps dessus, c'est pas ça.
Oui, c'est pas moi. Je crois pas,
D'accord.
je fais pas de vaisselle.
D'accord.
C'est pas
Donc,
moi non plus.
assoupagement.
D'accord. Alors, j'entendais un petit peu du bruit. Je sais pas ce que c'est qui
C'est
est
pas
en
moi non
train de faire
plus.
du bruit.
Quelqu'un
Bon.
qui sable le meuble.
Peut-être, peut-être. Donc, en continuant comme ça, quand même, vous êtes parti jusqu'au Québec. Donc, adieu
Oui,
famille.
alors là, on part encore 10 ans plus tard parce qu'on passe de mes 20 à mes 30 ans. Moi, à ce moment-là, j'avais coupé les ponts plusieurs fois avec ma mère, mais à ce moment-là, je m'en voulais donc. Je voulais pas être la femme qui avait séparé mes enfants de leurs origines. Donc, je me suis dit, on va laisser une chance à tout ça. Je reprends contact avec ma mère. On dit au revoir à la famille de mon mari. Moi, il faut comprendre que quand j'ai accouché de mon fils, dont la sœur a suivi d'ailleurs 2 ans plus tard, j'ai décidé qu'on n'habiterait pas à côté de la famille. Je suis pas la personne qui accouche des enfants pour dire, oh, je vais me faire aider par quelqu'un. Puis je reproche rien à ces personnes-là. Au contraire, si j'avais pu, je l'aurais fait. Mais psychologiquement parlant, j'avais
Bah
quelque
oui.
chose à me prouver.
Oui.
Et il était hors de question que je m'en sorte pas seule. Fait qu'on est allé habiter dans le bois, enfin devant le bois, dans un corps de ferme. Écoute, il n'y avait personne là-dedans. Puis je me suis reconstruite en éduquant mes enfants, en essayant de construire une vie de couple que j'avais jamais connue de manière saine et sereine, tu sais. Puis serein, c'est arrivé beaucoup plus tard.
Oui.
Puis, donc à 30 ans, effectivement, nous rencontrons un autostoppeur qui nous dit comme quoi il vit à Québec. Il nous dit, raconte à quel point sa vie est belle, finalement. Enfin, nous, on la trouve belle par rapport à ce qu'on vit en France. Et on se dit, mais pourquoi pas nous? Puis c'est un signe, tu vois, encore une fois, pourquoi est-ce que je prends cet autostoppeur-là
Oui,
plutôt qu'un autre n'importe où, n'importe quand,
c'est
puis il me
vrai.
raconte ça, c'est parce que je suis due. Et un an pour jour, jour pour jour, un an plus tard, le 13 mai 2014, on est arrivé au Québec.
D'accord. Et comme quoi,
C'est fou.
et là, tout commence, enfin, tout recommence, même de façon extrêmement différente. Donc, tu vas nous en parler dans un instant. Et puis, l'artiste arrive parce que. On va faire une pause musicale et après tu vas nous expliquer comment Lem est né, puisque Lem n'est pas ton nom de baptême. Donc tu nous en parles dans un instant après cette chanson.
C'est fort où rien ne respire. Corps contre corps, ciel contre cime. La forêt se tord, l'horizon soupire. T'aimer sur les bords du lac. Amoureux de l'ombre et du pire,
En continuant avec ton histoire, tu es arrivé au Québec. Quand est né l'artiste Lem et le pourquoi de ce nom?
Ah, c'est en fait... moi, j'arrive au Québec, je peaufine mon parcours de résilience, si on peut dire. Je suis en paix avec plusieurs choses, mais je n'ai pas encore pardonné à tout le monde. Je n'ai pas encore mis mes deux pieds dans mes deux baskets. Et à un moment donné, je me sens prête. J'ai terminé ce que j'avais à terminer. J'ai coupé les ponts définitivement avec ma mère en avril 2018. J'ai fait beaucoup de tri, beaucoup d'introspection les dernières années. Et je me sens prête à renaître d'une certaine manière. Mais là, il y a quelque chose qui m'agace profondément. C'est qu'on continue, moi, de m'appeler par le nom de mon ex-beau-père qui m'a reconnue... à mes 6 mois, donc je porte son nom et je porte le prénom que ma mère a choisi.
Oui.
Seulement moi, ça ne me convient pas parce que je pars du principe où on est comme on s'appelle. Tu sais, le prénom a une signification, etc. Et je pense que c'est correct. Hein. Je veux dire, toutes les Mélanie ne sont pas censées changer de prénom.
Là, si je fais une petite parenthèse, Poussadi pourra te le dire aussi, son prénom signifie quelque chose. Voilà, c'était tout. Elle en parlera après. Alors toi ?
Mais c'est ça, je pense que c'est super important en fait de bien cibler les choses. Et là, moi, quand j'ai vu Mélanie, en fait, ça vient du grec mélanos, qui veut dire sombre, couleur noire. Mmh. Et je me suis dit, merde, on m'a enterrée avant même que je naisse. Ça n'a pas de sens.
Oui, c'est vrai.
Parce que moi, j'ai fait le lien avec mon passé. Je pense qu'on a tous un côté sombre et c'est bien de l'assumer. Je veux dire, encore une fois, toutes les Mélanie ne sont pas censées changer de prénom. Mais moi, ça me dérangeait profondément. Mais ça faisait quand même un 15 ans qu'on m'appelait Mel. Et là, je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête, il faut que ça change, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, je discute avec plein de gens, puis notamment avec un ami qui est artiste à Montréal et qui me dit, mais tu sais, en Wolof, parce qu'il est sénégalais, Lem, qui est l'inverse de Mel, ça veut dire qu'il fait du rangement. Est-ce que c'est pas ça que tu fais toi aussi?
Oh, c'est beau,
dans tes
ça.
slams. Et je dis, ben ouais, c'est vrai que je range ma vie quand j'écris, c'est rigolo. Puis je réfléchis, puis là je dis, ben c'est vrai, en plus je viens du ghetto, je parle verlan, mon Dieu, ce que c'est significatif, tu sais, j'inverse les mots quand je parle, fait qu'évidemment je peux inverser mon prénom. Et donc à ce moment-là, ben c'était clair et net que c'était Lem, puis ça reste Lem, et je vais plus loin que ça. Au début c'était un pseudo de scène, un pseudo d'autrice, mais... En fait, ce que j'attends là, c'est la citoyenneté, que ça soit validé, parce que ça prend un temps incroyablement long. Mais une fois que ce sera validé, j'ai déjà les documents remplis à la maison, je vais les envoyer, il faut que ça devienne mon prénom officiel.
D'accord. Très bien.
Comme ça, je passe de l'ombre à la lumière.
Complètement. Et quand tu as décidé, parce que tu as toujours eu le plaisir des mots, tu as toujours aimé la lecture?
Alors, la lecture, ça a été... coup-ci, coup-ça, selon les années, surtout selon la disponibilité mentale, l'écriture, ça a été toujours sans concession. C'est-à-dire que aujourd'hui, même si je sépare difficilement les deux, à une époque, c'était beaucoup plus facile de trouver un bout de carton puis un crayon que de trouver un livre.
Ah.
Donc, je me suis beaucoup moins attachée à la lecture. Je ne m'évadais pas dans les histoires des autres pour m'en sortir. Je n'avais pas besoin de vivre un roman à la Dallas, je le vivais moi-même. Donc, pas besoin de plonger dans une fiction pour me sentir voyager ou pour me sentir bousculée dans mes émotions. C'était suffisant chez nous. Moi, j'avais besoin d'écrire pour m'apaiser et pour extérioriser.
Oui, mais tous les mots magnifiques que tu dis dans tes slams, etc., fallait bien que tu les aies appris. Donc, en général, quand on l'apprend, c'est plus dans les livres, non?
Mais alors ça, tu vas rigoler, mais c'est un mystère complet. C'est-à-dire que... Alors moi, j'ai toujours aimé ma langue. Hein. J'ai toujours eu une espèce de facilité déconcertante pour la langue française. Mais c'est drôle parce que tu vois, quand je finissais mon collège, ma prof de français, c'était le plus gros reproche qu'elle me faisait, c'était mon pauvre vocabulaire. Elle me disait « Oh, tu es tellement pauvre en vocabulaire, tu n'iras jamais nulle part. » Et je disais « Mais c'est incroyable qu'elle me dise ça, celle-là, mais elle a pas lu mes copines, c'est pas possible. Mes copines ont trois fois moins de vocabulaire que moi. » Et j'étais jalouse, moi, de ces filles ou de ces gars qui faisaient des notes incroyables avec des textes que je trouvais moyens. Puis, je trouvais pas que mes textes étaient formidables, mais je trouvais qu'ils étaient quand même travaillés au niveau du vocabulaire, parce que je m'étais fait chier à ouvrir des dictionnaires et tout ça. Puis, à un moment donné, quand ça a été beaucoup plus compliqué à la maison, puis que je me suis retrouvée à vivoter un peu par-ci, par-là, j'avais pas accès aux bibliothèques, j'avais accès à rien. Mais j'ai commencé à côtoyer des mondes très différents.
Oui.
Parce que je me suis rendu compte, effectivement, selon les gens avec qui tu traînes, tu obtiens plus ou moins certaines,
c'est vrai, il y a ça
certains
aussi.
Intérêts. Ben oui. Et ma mère a toujours eu cette espèce de... Elle a toujours été maniérée, un peu fausse bourgeoise. Et je me suis servi de ça, en fait, en essayant,
d'accord,
tranquillement, pas vite, tu vois, de me développer. Et aujourd'hui, j'ai abandonné tous ces trucs-là. C'est vraiment ça a été un tremplin, en fait, à la fin de mon adolescence. Mais après ça, j'ai côtoyé des gens qui étaient beaucoup plus éloquents, beaucoup plus instruits, etc. Et à l'arrivée d'Internet, au milieu de ma vingtaine, là, ça a été un boom pour moi parce que j'ai pu avoir accès à plein de cours en ligne gratuits, à plein de dictionnaires. Donc là, j'ai commencé à manger du français là, comme personne n'en avait mangé de sa vie.
Je comprends mieux le cheminement qui a été fait pour arriver à ça, d'accord. Ok. Effectivement.
J'avais un gros complexe au niveau de ça, parce que moi, j'ai quitté l'école à 15 ans. Au Québec, c'est l'équivalent du secondaire 3. Hein.
Oui.
Donc, j'avais un énorme complexe. Et moi, j'ai toujours voulu devenir écrivain. Depuis que je suis toute petite, je le dis, je vais être écrivain de best-seller. Je me suis dit, un écrivain qui ne sait pas parler, ou un pauvre vocabulaire, mais ça n'existe pas, c'est quoi? Donc, il fallait absolument que je pallie ça.
Excusez-nous du peu, pas seulement écrivain, mais écrivain de best-seller. Excuse-moi d'avoir, d'avoir dit juste
parole.
Ah ouais,
j'en rêvais quand j'étais petite.
on va faire la pause musicale. À tout de suite.
D'accord.
Enchanté, moi c'est Nicolas. Vas-y, viens, on boit un verre. Si tu veux, on le fait tout de suite. Vite, puis je te ramène après. Bouge pas, laisse-toi aller. Pour un soir, je serai ton hôte. Qu'est-ce qu'il y a? T'hésites ou quoi? Si c'est pas toi, ce sera une autre. Les plans cul, c'est mon quotidien. Mais difficile de me confier. C'était pas mal, mais on se quitte demain. Faudrait quelqu'un pour me conseiller. Le problème c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Mon amour, ça fait 8 ans. C'est pas tous les jours évident. C'est pas par manque de sentiments. On s'aime toujours, mais autrement. On dort dans le même lit, mais on s'éloigne petit à petit. L'impression d'être devenu transparent. Et si tu te trouvais un amant? Un resto, un week-end, c'est trop fatigant. Si on reste ici tout le week-end, est-ce que tu me trouveras encore attirant? Le problème c'est la routine. Quand les jours se ressemblent, ce qui me tue c'est l'ennui. Est-ce qu'on finira ensemble?
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
De lassitude.
Le célibat me fait souffrir de solitude.
De solitude.
La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Depuis qu'elle est plus là, j'ai l'impression d'être bête. J'ai la tête ailleurs, je sais même plus si ça va. Je regrette même nos prises de tête. J'avoue que je fais que me plaindre. Et ça depuis qu'elle est plus là. Faudrait peut-être que j'arrête. Au fait, moi c'est Nicolas.
Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude. Le célibat me fait souffrir de solitude. La vie de couple me fait souffrir de lassitude.
Restez avec nous, on se retrouve avec Lem et Poussadi dans un instant. A tout de suite.
Vous écoutez Trio Singulier Pluriel avec Arlette Farah et Poussadi Vani.
Voilà, donc on revient avec Lem et Poussadi, comme promis. Poussadi, t'avais une question, t'avais lu quelque chose sur Lem et puis tu voulais lui poser une question parce que grâce à sa résilience, elle est devenue quelqu'un ici. Qui l'aurait cru après un parcours pareil? C'est magnifique.
Oui, non, mais c'est ça, je trouve ça extraordinaire. Je trouve que dans sa voix, on dirait que son parcours, elle est rendue tellement loin là, dans son cheminement. Et puis, je me demandais aussi si c'est le côté créatif, ça a été pour elle, pour toi, Lem, une stratégie de survie, tu sais, en quelque sorte. Est-ce que tu peux dire que tu te sens sécurisée malgré tout ce que tu as vécu?
Oui, complètement. Ça okay. a pris longtemps. Il y a eu des chutes et des rechutes, j'ai envie de dire, mais aujourd'hui, ça va vraiment bien. J'ai pardonné à tous mes détracteurs, j'ai pardonné à moi-même. Mm-hmm. Le côté créatif, je ne sais pas si je créais avant, quand j'écrivais, j'avais surtout besoin d'extérioriser beaucoup de choses. Mais en fait, en arrivant au Québec, j'ai découvert le slam, je ne connaissais pas ça. Puis j'ai commencé en fait à écrire pour peaufiner, si je peux dire, tu sais, pour valider finalement mes acquis dans la guérison. Et aujourd'hui, j'écris clairement parce que je veux transmettre le message, je veux dire à tout le monde qu'on a tous les clés en nous pour... Pas pour réussir, mais ben oui, pour réussir d'abord, mais pour notre mieux-être, pour devenir quelqu'un de meilleur, puis surtout pour guérir. C'est important, je pense qu'on a tous cette force en nous. Des fois, je pense que des fois, on a l'impression qu'on est confortable dans ce qu'on vit parce que c'est la seule chose qu'on connaît.
C'est vrai.
Mais c'est pas vrai. C'est un mythe, c'est quelque chose qu'on a l'impression. Ce n'est qu'une impression, c'est ça, c'est une illusion. On se berce d'illusions. Et en souffrant un tout petit peu plus, c'est-à-dire en allant chercher et en allant... En fait, moi, je vais donner l'image que j'ai toujours en tête, c'est en prenant sa pelle et en mettant ses bottes, en allant taper dans le fumier qui est en train de pourrir sous le pommier, et ben, en allant l'étaler dans le jardin, on va faire pousser des fleurs.
Oui, en effet.
Là, on a... tous un tas de fumier, mais on a aussi tous une pelle et une paire de bottes. Ça, c'est hyper important de s'en rappeler.
Ah ben, l'image
mais
est très belle.
Mais c'est ça, l'image est super belle. Et puis, écoute, on pense à toutes ces femmes aussi, ou ces enfants, ces hommes aussi, qui sont déjà passés par là. Puis, tu sais, quand je t'entends parler, j'ai l'impression de devoir bouger parce que je te vois pas. Puis, à travers ce que tu fais, j'entends aussi la mémoire du corps, tu sais. De tout ça, mais qui se tourne vers quelque chose de beau, qui s'épanouit, qui a un grand déploiement, tu sais. Et puis, je suis tombée sur ton site, bien évidemment, officiel, où tu dis que tu es distillatrice de l'être. Alors, dis-moi, qu'est-ce que c'est une distillatrice de l'être?
Ben en fait, distillatrice, c'est simplement le nom féminin pour le verbe distiller. Quand tu vas dans une distillerie, tu as toujours un produit, je vais dire un liquide, puis quand tu le distilles, tu arrives à séparer, je sais pas quoi.
mettons,
tu veux distiller de l'alcool, tu vas séparer, c'est ça, tu vas séparer le neutre de l'alcool ou un truc comme ça. Puis moi, dans le fond, l'image que j'ai avec cette histoire-là, c'est toujours pareil, c'est quand j'arrive en atelier... je dis toujours que je vais faire des ateliers de slam, mais c'est une très belle excuse pour dire je vais apprendre aux gens, je vais amener l'outil aux gens de l'écriture de soi, l'écriture vers l'estime de soi. Et en fait, à travers cette écriture-là, ben, j'ouvre la porte aux gens en leur disant, regarde, t'es capable toi aussi de distiller ton côté plus fumier, puis ton côté plus verdure, puis d'aller peut-être faire prospérer un côté avec l'autre en dosant à chaque fois. Comment est-ce que tu vas ramener ton côté plus malodorant là, dans ton jardin? Mais tu n'es pas obligé de tout mettre d'un coup pour l'étouffer, tu peux y aller partie par partie, puis l'écriture permet ça.
Oui, c'est super. C'est comme un peu décoloniser un peu la mémoire traumatique, puis arrêter de survivre pour vivre, hein? C'est ça un peu?
Exact, c'est tout à fait ça. C'est drôle parce que tu parles de mémoire du corps, puis tu sais, C'est quelque chose que j'ai rarement raconté à date. Mais moi, à l'âge de 15 ans, mon dos a dit stop, comme si j'avais 75 ans, là, puis que mon corps était comme juste trop vieux pour vivre.
Ah oui.
Et j'ai eu des paralysies incroyables. Je me suis retrouvée plein de fois, genre des centaines de fois dans mon canapé avec des piqûres de cortisone, puis à regarder mes enfants faire leur premier pas, puis à être à 2 mètres 2, puis à ne pas être capable de leur tendre la main, tu sais. Puis wow. Ça s'est arrêté il y a 4 ans. En fait, juste avant de devenir LEM, c'est drôle, hein, je venais d'être correct avec moi-même et je suis allée voir une personne qui était en fin d'études d'ostéopathie à Montréal, puis je lui ai dit, est-ce que tu serais capable de me faire plusieurs séances, ça va prendre des vingtaines de séances, pour guérir mon dos, parce que je pense que c'était lié à ma spiritualité, mais que maintenant que mon mental va bien, je pense que mon corps pourrait aller mieux. Et ça y a pris 2 fois 1h30, là. Elle m'a dit, t'avais pas tant de problèmes physiques que ça, t'as tout emmagasiné ton côté mental. Elle dit, maintenant que ton mental va bien, ton corps peut aller en paix. Et wow. Elle a raison, maintenant je fais du sport pour la première fois de ma vie depuis 3 mois. Là.
Et en intensif.
Ouais, en intensif, j'ai du retard à rattraper.
Voilà. Donc, ben écoute, moi je trouve ça vraiment, on trouve ça vraiment magnifique. En même temps, aujourd'hui, tu es heureuse, tu commences à être reconnue et tu as écrit des livres. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Ben oui, bien sûr. C'est ça, donc je dis que je suis autrice et artiste de la parole. Donc je suis artiste de la parole parce que je fais du slam, parce que je promeux l'écriture et le fait de dire les choses dans mes ateliers, mes conférences. Mais je suis aussi autrice. Alors à date, j'ai 2 livres qui sont sortis, qui ont un rapport directement avec ma résilience. « Dès l'imbe à la surface », qui est le livre du spectacle éponyme. Et « Si les murs avaient su parler », qui est sorti l'année dernière aux éditions C'est la prod en France, et qui est préfacé par France Castel. Le projet est suivi par France Castel, qui a aussi un beau parcours de résilience. Je suis très, très heureuse de l'avoir à mes côtés là-dedans. Et là, je viens de terminer l'écriture du tome 1 du roman, qui sera une trilogie, parce que je veux aussi raconter les joies qu'on peut vivre quelque part au milieu de tout ça. Donc, ça, c'est la future aventure éditoriale. Je m'apprête à recevoir des noms, des oui, des peut-être, puis à voir là-dedans.
D'accord. Alors, ça va être une belle série d'écriture. Alors, on doit te dire, Lem, parce que dans d'autres émissions auxquelles tu as assisté, non pas dans d'anciennes émissions que j'avais faites, tu connais déjà Noémie Chelariou. Donc, comme elle est avec nous dans ce trio d'émissions, elle a écouté ton entrevue complètement. Donc, pour l'instant, on va passer une musique, puis on va revenir avec elle après. Et puis, elle va nous expliquer ce qu'elle a pensé de toi, quelle émotion tu as soulevé chez elle, comment elle a ressenti tout ça. Et elle aussi, elle le fait dans l'écriture, mais avec sa voix. Donc, elle écrit des poèmes, hein, Poussadi, on en est témoin régulièrement, chaque semaine. Donc, avec beaucoup de talent. Avec beaucoup de talent. Donc, on attend de savoir ce que ça va passer. Donc, dès la prochaine chanson, on revient avec Noémie. Elle te fera écouter ce qu'elle a fait pour toi. Et puis, on bavardera autour des ressentis et de ce qu'elle a vécu pendant une partie de ton entrevue, puisqu'il faut aussi qu'elle travaille pour créer la chanson. Voilà. À tout de suite. On part en musique.
Je creuse et je sens de toutes mes rides tous les silences de la ville. J'avoue, je t'ai cherché un peu. Je fuis les angles morts et je souris dans le miroir pour mes amis. J'y mets tous ceux qui ne voient rien, qui ne voient rien. quelqu'un d'autre et m'en aller. Je ne veux plus partir de moi. Je voudrais me croire amoureuse. Je ne serai plus une fille.
Alors voici, on est revenu tout ensemble, Lem, Poussadi et Noémie Chelariou est avec nous. Bonjour Noémie.
Eh bien bonjour à vous.
Alors
bonjour, Noémie.
Allô. Alors comment as-tu vécu ce moment passé avec Lem?
Bon, c'était tout spécial. Ça m'a envoyé dans un état de force dans l'espace.
Ah.
Une force plutôt féminine et de l'espace et du temps pour quand on fait un pas, c'est pas une erreur. Tu sais, quand on prend le temps de faire un pas bien réfléchi, on ne défait plus jamais ce pas-là ensuite.
Ah, comme le premier pas sur la Lune.
Et j'ai ça, mais tu sais, je fais juste décrire l'état dans lequel écouter oui. votre entrevue, ça m'a propulsé.
D'accord.
C'est cet état-là. Et ensuite, il y a des mots qui ont été dits par toi, comme par exemple « ma vie, mon œuvre ». J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça aussi le paradoxe que la main qui était censée bercer et prendre soin a été celle qui a blessé. Puis dans l'histoire de Lem, du moins là, ce que j'ai entendu, parce qu'il y a eu des choses qui sont passées au sein de la famille, ça m'a fait créer le refrain, ce paradoxe-là de la main qui est censée prendre soin qui finit par être la main qui blesse.
Alors, on va écouter la chanson, puis on va en reparler toutes les quatre ensemble ensuite. D'abord, je voudrais savoir quel est le titre que tu lui as donné?
La main qui berce.
La main qui berce, d'accord. Alors.
Et avant qu'on la fasse jouer, je vais te dire, c'est différent d'habitude. Il y a des longueurs dans la chanson. Donc parfois, on va avoir l'impression que c'est fini, mais il faut laisser résonner. Puis ça va continuer.
D'accord. Alors on a compris. On écoute jusqu'au bout.
Quelque chose de moi, une beauté, une épreuve à la fois. Ma vie, mon œuvre, ce qu'on transforme pour le plus grand de soi. Si parfois, c'est la main qui berce, qui blesse souvent, le reste on le raconte en pleurant, mais t'es arrivé au bon moment. C'était un cauchemar et les cris se poursuivaient dans le noir et j'ai fui. En moi, quelque chose souhaitait la mort autant que la vie. Si parfois, c'est la main qui berce, qui blesse souvent, le reste on le raconte en pleurant, mais elle est venue au bon moment. Je me proclame bien vivante. Mais comment ceux qui m'aiment ont pu me nommer en me bafouant?
les mêmes lettres, les mêmes échos, l'émancipation, le mystère des mots. Si parfois c'est la main qui berce, qui blesse souvent, le reste on le raconte.
Et voilà.
Waouh.
C'est magnifique.
Très très beau, oui. Très touchant.
Alors, LM, c'est à toi qu'on va laisser la parole parce que la chanson t'est destinée.
Ouais, je suis encore une fois subjuguée par l'écoute de Noémie. Bon, en même temps, bon, on s'était déjà croisés plusieurs fois, mais...
Oui.
T'as vraiment une écoute super active, en fait, Noémie. C'est hyper, c'est hyper cool, en fait. Parce qu'on sait qu'on n'a pas parlé dans le vide, mais il y a quelque chose... j'aime beaucoup comment ton empathie, en fait, la manière dont tu arrives à transformer une histoire qui ne t'appartient pas, en fait, et à la faire tienne le temps d'une chanson.
Merci, Léam.
C'est exactement ça. On voit que t'as le, on voit Lem à quel point tu as le comment dirais-je le pouvoir de la parole, parce que tu sais bien décrire ce que nous avec Poussadi on lui dit bravo bravo bravo.
Non mais c'est ça. Puis, mais en plus c'est tellement juste là, c'est comme on n'aurait pas mieux défini ça de la façon dont Lem elle le fait. Et puis cette hyper sensibilité là, c'est incroyable à chaque fois. Je suis comme soufflée là.
Et c'est une façon de, tu sais, cette hypersensibilité-là que plusieurs artistes ont, là, c'est, ça se vit comme un problème dans la société. Ça se vit comme un problème parce qu'il faut avoir la quenveur pour vivre. Puis quand le drame de l'autre te fait sincèrement résonner quelque chose en dedans, c'est paralysant. Tu vis la vie en étant paralysé puis en portant sur toi des drames qui sont pas les tiens. Alors, il fallait que cette empathie-là devienne une qualité créative, là.
Wow, c'est bien dit. Je comprends plein de choses là avec cette explication-là.
Je pouvais pas là, rester toujours à pleurer parce que les gens souffrent. Puis, tantôt, Lem, tu parlais, là, puis j'étais comme ça. Je peux pas sacrer en nombre, mais j'ai le goût. Elle a pas ce pouvoir de transmutation des mots-là pour rien. T'sais.
C'est vrai aussi.
C'est important. Je sais pas comment dire, je peux pas dire que la souffrance est importante, mais faut savoir la transcender. Il y a quelque chose dans l'artiste qui sait faire ça. Puis il aime, mais je le sens de elle. Vous lui direz.
Elle a réussi tout ça. Elle est là, elle est encore avec nous, elle est encore avec nous. Donc.
Je blague. Je suis juste un petit peu en train de fuir mon état.
Là, elle a pu rester là-dessus, mais c'est joli. J'aime toujours ça, le lien que tu fais quand tu entends ta manière d'écouter, puisque tu nous racontes après, qui fait que, voilà, on entend ce que tu as retenu et puis ce que tu as voulu donner, puis ça va beaucoup plus loin que de simples mots ou des mots aussi. Ça va plus
Merci,
loin que les mots.
Je suis contente d'avoir pu m'inspirer de Lem aujourd'hui et de vous en studio.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci pour ce beau cadeau.
Ça a été un beau cadeau. On va continuer avec Lem un petit peu en terminant pour donner là où on peut la joindre, là où on peut la voir, là où on peut la lire avant de finir complètement cette émission. Donc merci beaucoup Noémie Chelariou. Écoutez-la, suivez-la aussi sur Facebook. Elle a beaucoup de talent. Merci.
Merci.
Et puis on te dit à la prochaine fois.
Oui.
Alors, Lem, avant qu'on se quitte et avant qu'on ait la musique de fin de cette émission, tes livres, d'abord, dont tu as donné, tu redonnes les titres, où est-ce qu'on peut les trouver? Où est-ce qu'on peut t'écouter, toi? Où est-ce qu'on peut suivre ton cheminement et ce que tu es en train de faire et tes spectacles quand tu en as, etc.
Oui, alors.
Un petit peu de promo, bah, s'il vous plaît, madame.
C'est... tu me fais rire. Alors, mes livres, c'est « Des limbes à la surface », qui est en fait le recueil des textes du spectacle du même nom. Et le dernier en date, qui s'appelle « Et si les murs avaient su parler », qui est un livre de macrophotographie littéraire, j'appelle ça. C'est des micro-poèmes qui sont en fait la prémisse du spectacle. On peut les trouver sur mon site internet, lemofficiel.com. On peut aussi trouver mes clips officiels, l'annexer à ma chaîne YouTube, à mes réseaux sociaux. Il y a ma biographie, puis il y a aussi une partie événements qui est un peu pauvre en ce moment parce que j'y travaille, mais que je mets à jour à chaque fois qu'il y a des nouveaux événements qui s'ajoutent. Alors, il ne faut pas hésiter à s'y rendre si on veut me rencontrer. Il y a toujours un endroit ou deux au minimum d'inscrits là-dedans.
Alors écoute, nous avec, Poussadi va dire un mot dans un instant. En tout cas, moi je te remercie d'avoir participé avec nous à cette émission de Trio Singulier Pluriel où les parcours de vie font du bien. Voilà. Poussadi, un petit mot à dire dans la minute qui nous reste.
Oui, en effet. Merci pour de nous offrir, de nous avoir ouvert aussi cette partie de ton intimité parce que ça prend beaucoup de courage aussi pour le faire en public comme ça. Et puis, une grande admiration pour toute ton œuvre. Et puis, bonne continuation. Puis, continue de nous inspirer et d'en inspirer d'autres.
Alors, merci Lem, merci Poussadi d'avoir été avec nous. Merci
à
Noémie Chelariou, bien sûr.
Bien sûr.
Et puis, on ne peut pas. D'accord, on a un trio de filles et on a une invitée, mais quand même, on ne peut pas partir sans dire merci Nicolas Wartmann d'avoir été là pour la technique.
Nico.
Ça a été notre seul garçon de l'heure, mais on y tient quand même à lui. Donc, merci
tout
beaucoup d'avoir été là pour la technique et les chansons. Et puis, nous, on se retrouve, Poussadi, la semaine prochaine avec encore un nouvel invité super intéressant. Et c'est des très belles rencontres, mais quelle belle idée d'émission. Donc, bravo, on se félicite, Poussadi. Alors, on vous souhaite une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.